Bienvenue à tous. Nous voilà encore une fois pour la sixième, le sixième dimanche dans cette immense salle vide à l'église Nouvelle Vie avec seulement moi et deux techniciens à plus de 2 mètres, croyez-moi, l'un de l'autre et de moi. La salle est vide. Nous rencontrons toutes les normes de distanciation, de sécurité sanitaire. La salle est vide, mais mon cœur est rempli de sa parole. J'ai un message pour vous. Il y a une distanciation sociale, sécuritaire, mais il n'y a pas de distanciation spirituelle. Ni la COVID, ni le confinement ne peut nous empêcher de communiquer. Laissez-moi communiquer aujourd'hui, avant toute chose, comme un pasteur, un berger qui a à cœur les gens. Laissez-moi vous communiquer à quel point vous êtes sur mon cœur. Je prie et honnêtement, nous prions et versons des larmes. Nous prions et pleurons pour ceux qui pleurent, pour ceux qui vivent des épreuves extraordinaires en ce moment. Il n'y a pas une journée en ce moment où on ne reçoit pas un courriel, où on n'est pas au téléphone avec quelqu'un qui a perdu un être cher ou quelqu'un dont de sa famille qui est confiné. On parle de parents, de grands-parents et on ne peut pas aller les voir. On peut pas. Il y a un déchirement, il y a des situations de deuil, de déchirement, de perte d'emploi, de perte dans toutes sortes de domaines. Je veux que vous sachiez que vous êtes sur nos cœurs. Nous avons besoin de plus de compassion et nous avons besoin de prier également pour encore plus de foi. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Augmente notre foi, la foi dont nous avons besoin face à cette pandémie de la COVID-19 ». Nous avons besoin, comme les disciples ont prié, « Augmente ». Les disciples ont demandé au Seigneur « Augmente notre foi ». Luc chapitre 17 et le verset 5, les disciples disent au Seigneur « Augmente notre foi ». Pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible. La prochaine partie du verset va apparaître, Hébreux chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Augmente notre foi, le titre de mon premier livre. J'ai écrit 5 livres. Le premier livre que j'ai écrit il y a quelques années dans un temps de jeûne, 40 jours de jeûne et de prière. Et Dieu a mis une onction sur ce livre. Le Seigneur a mis une faveur qui a dépassé ce que je pouvais imaginer. L'organisation Billy Graham, par exemple, a distribué ce livre à des centaines de ses ouvriers, la même chose avec l'organisation Vision Mondiale qu'il a envoyé à des missionnaires un peu partout à travers le monde. Le pasteur Carter Conlon et Jim Simbala l'ont distribué également. World Challenge également le distribue à des donateurs partout à travers le monde aussi. Je crois que c'est un livre, si le sujet d'aujourd'hui touche votre cœur, écrivez-nous et on va vous laisser savoir comment vous le procurer malgré la COVID et malgré tout ce qui prend place. Nous avons besoin d'être fortifié dans notre foi, parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable dans cette saison de COVID. Il peut y avoir une connaissance biblique, la louange, un langage chrétien, mais nous avons besoin d'un témoignage de foi plus profond. Nous avons besoin d'un témoignage de foi et de ne jamais être devenus des touristes de la foi. Il y a des touristes de la foi, comme il y a des touristes à la croix, il y a des touristes de la foi. Il y a un parallèle qui est là. Les touristes de la foi, le touriste, vous savez ce qu'il fait? En tant que touriste, apprend juste assez du langage du pays, du royaume visité, juste assez pour se faire servir, juste assez pour être capable de commander ce que... Et il y a des croyants, il y a des chrétiens qui c'est à peu près ça, la limite de leur foi. Ils voient Dieu juste comme, comment est-ce que je peux me faire servir? C'est une foi bien sûr. Les touristes de la foi sont là, les touristes sont toujours là pour consommer, ils ne sont pas là pour contribuer ou pour construire, ils sont juste là pour prendre. Les touristes de la foi, s'il y a des problèmes qui surgissent, disparaissent, ils ont leur passeport vers la sécurité, leur billet de retour en tout temps. Et à travers des pandémies comme celle-ci, des épreuves comme celle-ci, est-ce que votre foi vous tient? Est-ce que votre foi traverse le test de cette épreuve? Les touristes touristes ne bâtissent jamais de relations durables. On a beau devenir un peu copains, partager, jaser un peu avec le staff, avec les gens là-bas. On se fait la colère avant de revenir du voyage. C'est rare que tu te fais des relations durables. Il y a des gens qui sont dans le royaume de Dieu depuis des années et qui sont là plus pour prendre, n'ont pas de relations. C'est formidable qu'en ce moment, malgré la distanciation, nous pouvons être en communion. Nous pouvons avoir des relations. Il y a des gens qui sont en Zoom, de toutes les façons possibles, ont des relations spirituelles. Les touristes de la foi ont une foi qui fuit lorsqu'il y a des problèmes, aucune intention de faire face, une foi où ils gardent leur culture, ne changent pas ma culture, ne changent jamais leur culture et ils ne développent certainement pas une confiance. Et aujourd'hui, nous avons besoin de prier. Seigneur, je ne veux pas être un touriste de la foi, je veux avoir un témoignage de foi. Et nous regardons, alors que nous allons prier ensemble, augmente notre foi, nous allons regarder un texte extraordinaire dans 2e Rois, chapitre 6, où il y a Élisée qui est là et il va nous donner les trois éléments de la foi dont nous avons besoin une fois dans cette saison de la COVID-19, dans cette saison de pandémie. Et c'est un contexte qui est assez intéressant et assez pertinent à notre réalité. Lorsque vous étudiez 2e Rois 6, c'est un contexte, il y a une attaque, là, il y a un ennemi qui les entoure, mais c'est un contexte où des chefs d'État et des rois sont en guerre, des chefs d'État et des rois en guerre, et des chefs d'État et des rois avec le cœur agité. Les versets 8 et 11 de 2e Rois 6, les dirigeants mondiaux, les rois des nations sont en guerre. On est en guerre contre un ennemi invisible, mais ils ont les cœurs agités. Et aujourd'hui, nous voyons ça de Premier ministre Legault et Trudeau internationalement, Macron et Merkel et Johnson et Trump. Tu sens ce qu'ils portent. Certains, sans les nommer, certains présidents plus agités que d'autres, tourbillons de tweets belliqueux et accusateurs qui blâment et essayent de réécrire l'histoire et de trouver des coupables partout et de blâmer partout et de faire de la projection. C'est un contexte, 2e Rois 6, de chefs d'État qui... Il y a une guerre, mais sont agités. C'est aussi un contexte où une société a besoin que le message, celui qui parle pour Dieu, ait un message qui est digne de confiance. Une société qui a besoin d'un message digne de confiance. Et c'est intéressant que dans ces moments où les rois sont agités, Élisée a à l'oreille, il a un message, il a prouvé la confiance de son message. Nous lisons dans les versets 9 et 10 de 2e Rois 6, que l'homme de Dieu fit dire au roi et à la nation que, et les rois, le roi l'écoutait attentivement, celui qui disait parler pour Dieu était écouté attentivement, non seulement une fois, mais deux fois. Il y avait une relation de confiance qui s'était établie, un message de confiance. Et j'aimerais dire, attention, criez si c'est possible, attention homme de Dieu, attention femme de Dieu, attention à tous ceux qui s'expriment en ligne en ce moment, attention chrétiens et chrétiennes, attention à tous ceux qui en ce moment déclarent la fin de toute chose, déclarent la fin des temps et maintenant là, c'est la fin. C'est le retour de Christ, c'est l'enlèvement, c'est celle-là, c'est la pandémie, c'est celle-là qui va mettre fin à tout. N'oubliez jamais que Jésus lui-même a dit que nul ne connaît le jour, le moment ou l'heure, ni même lui-même dans sa forme humaine, ni même le Fils de l'homme. Seulement le Père le connaît. Il y a des signes des temps, mais c'est fascinant et terrifiant à quel point, à travers toute l'histoire de l'humanité, les chrétiens qui vivaient des situations qui les touchaient directement ont bien des fois prédit celle-là, c'est celle qui amène à la fin. J'ai regardé hier un vidéo d'un ministère très connu qui disait, là, c'est maintenant, là, la trompette est aux lèvres du maître, c'est maintenant, c'est celle-ci, c'est maintenant. Est-ce qu'on va voir la fin de l'année? Imaginez-vous à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu 19 millions de personnes qui ont péri. Et en ce moment, il y a 155 000 personnes dans le monde qui ont perdu la vie. C'est terrible, c'est une crise mondiale. Mais il y a, imaginez le début de la Première Guerre mondiale, 19 millions de personnes qui meurent, et vers la fin, la guerre n'est même pas encore finie, que la grippe espagnole emporte 50 à 100 millions de personnes. Et là, les gens disaient, ça y est, c'est la fin, c'est terminé. Et à toutes les dates, vous pouvez lire, à chaque époque, comme aujourd'hui, des gens qui disent, c'est maintenant, c'est celle-là, c'est sûr. La Deuxième Guerre mondiale, l'État d'Israël, les dates de l'État d'Israël, 48, 67, 87. Saviez-vous, et les chrétiens qui sont un peu plus âgés s'en souviennent, qu'en 1987, le livre chrétien, le best-seller numéro un, en 1987, pour tous les chrétiens l'achetaient partout dans le monde, ça s'appelait 87 raisons pour lesquelles Jésus revient en 87. Et croyez-moi, les ventes ont baissé en 88. Et à chaque, à l'an 2000, le bug de l'an 2000, je ne nommerai pas, un auteur qui a fait fortune avec un livre, le Millennium Meltdown, ça y est, c'est maintenant, c'est le bug de l'an 2000, c'est fini. Et je me souviens, six mois plus tard, avoir eu une rencontre, quelques-uns d'entre nous représentant les chrétiens de tout le Canada, on avait rencontré le premier ministre du Canada. Et alors qu'on est, avant que le meeting commence, avant que lui arrive, son attaché est arrivé et avait dit, êtes-vous de ceux qui aviez appelé la fin du monde avec le bug de l'an 2000? Il y avait une espèce de mépris, une espèce de risée. Encore tout récemment, des chrétiens, c'est septembre 2017, tu sais. Et là maintenant, c'est 2020. La parole de Dieu nous enseigne que les signes de la fin vont être comme les douleurs de l'enfantement, qu'elles vont être présentes à travers les âges, mais que les signes de la fin, ils vont s'intensifier dans leur proximité, ce rapprochement, dans leur intensité et aussi dans leur proximité l'un à l'autre, dans une intensification. Mais il y a une chose qui est importante de comprendre, comme on va voir dans 2 Roi 6, c'est que les temps d'attaque comme ceux-ci, ces saisons-là, sont des saisons qui préparent le retour du Seigneur. Oui, seulement lui connaît le temps, mais qui préparent aussi des saisons du surnaturel, des saisons où Dieu va agir de grande façon. Les rois sont en guerre, les cœurs sont agités, une société a besoin d'un message digne de confiance et une saison où Dieu prépare le surnaturel. Le verset 12 de notre texte de 2 Roi 6 nous dit que l'attaque était tout autour et que l'homme de Dieu était à Dothan, dans la ville, dans le lieu de Dothan. Et le lieu de Dothan, pour toi peut-être, ne veut pas dire grand-chose, mais pour tous ceux qui connaissaient l'histoire d'Israël, c'était un lieu très, très significatif. C'était le lieu de la préparation pour le surnaturel. Dothan, c'est le lieu, c'est les événements, c'est la saison qui prépare plus, qui prépare l'accomplissement de la prochaine étape du plan de Dieu. C'était à Dothan. Lorsque tu disais Dothan, tous ceux qui connaissaient l'histoire disaient Joseph. C'est à Dothan que Joseph a été vendu par ses frères. Il a été oublié, faussement accusé, confiné. Mais Dieu le préparait. Joseph avait une vision et il semblait maintenant être tellement loin de sa vision. C'est à Dothan que Joseph avait crié du fond d'un puits de confinement, de trahison et d'abandon, suppliant ses frères de ne pas le laisser, de ne pas le laisser être parti, être pris captif, vendu comme esclave. Et le psaume 105, des versets 17 à 21, nous donne ce qui se passait dans le cœur de Joseph à Dothan. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens et on le mit au fer. Toutes ses libertés lui étaient enlevées jusqu'au temps où il arriva ce qu'il avait annoncé. La parole, l'Éternel le mettait à l'épreuve. Jusqu'au temps qu'il avait annoncé, l'Éternel le mettait à l'épreuve. Et par la suite, le roi fit ôter ses liens et l'établit comme maître sur toute la maison et gouverneur de tous ses biens. Pendant que à Dothan, pendant qu'il y avait une attaque, pendant qu'il était lié, pendant qu'il était confiné, la parole de Dieu le développait, sa foi grandissait. Dothan est en train de préparer, je le dirais, de cette façon. Pendant à Dothan, Joseph avait crié du fond d'un puits de confinement, de trahison et d'abandon. Il avait supplié ses frères de ne pas le vendre comme esclave. Mais pourtant, Dothan, c'était le Dothan des doutes, des douleurs et des déchirements, est un Dothan où notre foi en Dieu va trouver sa détermination, va se développer, va trouver sa direction et même va trouver sa destinée. La foi dont nous avons besoin dans cette saison du COVID-19, c'est une foi où le peuple de Dieu discerne qu'à travers cette saison et de l'autre côté de cette saison, c'est déjà commencé, il y a un moment divin, il y a une percée de l'action et du royaume de Dieu. C'est pas, j'ai eu le privilège de côtoyer de près pendant plusieurs décennies un homme de Dieu qui avait une parole prophétique, le pasteur David Wilkerson. En 1985, j'ai été invité à l'accompagner pendant 5 semaines et à devenir son traducteur de l'anglais au français. Et si on regarde la prochaine photo, ça, jusqu'à la toute fin, ça c'était l'année et quelques mois avant qu'il nous quitte. Et c'est une relation pendant toutes ces années. Et en 1986, je me souviens, il a écrit un livre et je le côtoyais à ce moment-là. Je le traduisais, je l'ai prêché sur New York et il s'est fait moquer, mépriser, abuser lorsqu'il a écrit une parole prophétique en 1986. Et j'aimerais vous la... Je l'ai traduit en français directement mot à mot. Et j'étais avec lui à l'époque où il voyageait, prêchait, il a donné son regard à la traduction française. Il a écrit en 86. Je vois une plaie, a plague, qu'on traduit une peste ou une pandémie, qui vient sur notre monde et tout sera fermé. Les bars, les églises et les gouvernements ordonneront que tout soit fermé. La ville de New York et les États-Unis vont être frappés comme jamais auparavant. La pandémie va amener des croyants sans vie de prière, à des prières radicales et à plonger dans leur Bible qu'ils avaient délaissée. La repentance sera le cri et l'appel de l'homme de Dieu, du prédicateur. Et de cette pandémie viendra la troisième grande vague de réveil qui va balayer le monde. Et je me souviens au moment où il a donné cette parole, que les gens se moquaient de lui. Et les Américains surtout disaient, New York, surtout pas New York. Les États-Unis, peut-être ailleurs, mais pas nous. Nous sommes bien au-dessus de tout ça. Mais j'aimerais vous dire que comme à Dothan, on va le voir dans un instant, que l'attaque prépare quelque chose. Cette pandémie ne va pas détruire l'Église chrétienne. Au contraire, elle va la déployer. Elle va la faire découvrir par des dizaines de milliers. Elle ne va pas la réduire. Elle va l'amener à la repentance. Elle va l'amener au réveil et elle va la répandre dans les nations. Cette pandémie ne va pas anéantir ou amoindrir notre foi. Si nous nous offrons à lui, cette pandémie peut être le moment où notre foi va être augmentée, où nous allons crier avec les disciples, « Seigneur, augmente notre foi ». Et lorsqu'on regarde le 2 roi 6, nous regardons que la foi dont nous avons besoin pour faire face à la COVID-19 est une foi qui transcende le déni et tous ses dérivés. Le déni et tous ses dérivés, 2 roi, chapitre 6 et les versets 14 et 15. Il envoya des chevaux et des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville. Ils sont entourés d'ennemis avec des chevaux et des chars. C'est bien réel, c'était une menace de mort. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah non! » « Ah non, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Ça, c'est du déni. « Ah non, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Que ferons-nous? » L'attaque est arrivée pendant la nuit. Le serviteur Géasi s'est endormi. Géasi s'est endormi. Tout semblait OK. Tout semblait dans la paix. Le monde allait bien. Et lorsqu'il s'est levé le lendemain matin, il n'y avait plus rien qui était pareil. Le monde tel qu'il le connaissait avait changé. Les attaques sont arrivées de nuit et ont enveloppé la ville. Le serviteur de Dieu se lève comme toi et moi en cette année 2020 et il n'y a plus rien qui est pareil. La COVID-19, lorsqu'on en entendait parler, on parle en question de semaine et mois, au mois de janvier, même l'Agence de la santé mondiale disait « ça va être confiné, ça va être dans un autre pays, ça peut pas aller dans tous les... » Et tous les politiciens disaient « pas de danger, tout va continuer comme avant. » Et ici à Nouvelle-Vie, le 8 mars, ça a été la dernière fois, avec un peu de sourire, on ne se serre pas la main par sécurité, on y va avec le coude le vendredi 13 de suivi, il n'y a plus rien qui est pareil. Il n'y a plus rien qui est comme avant. Perte de liberté, aller faire l'épicerie, aller chercher de la nourriture est devenu quelque chose de complètement... Il n'y a plus rien qui est pareil. Les écoles, tout est fermé. Les délateurs, plus de sport, plus de spectacle, plus de festivals de l'humour, tous les festivals qui sont arrêtés, annulés chacun. Les personnes près de nous qui sont frappées de tous les côtés. Les investissements qui ont été perdus, les emplois qui ont été perdus, les entrepreneurs en ce moment qui ne savent pas. Ici au Québec, on parle... Il y a des millions de personnes qui ont perdu leur emploi et on parle d'une entreprise sur trois qui peut fermer suite à cette crise, la bourse qui est incertaine. Il y a des mots qui nous étaient complètement inconnus ou qui ont pris un tout autre sens. COVID-19, coronavirus, distanciation, asymptomatique, CHSLD. Au Québec, si quelques-uns d'entre nous savaient ce que c'était, ça a maintenant une image complètement différente. Ces résidences pour personnes âgées qui sont foudroyées, qui sont frappées. Le serviteur de Dieu est en déni. Il a dit « Ah non ». Dans l'hébreu original, c'est une négation. Et nous aussi, on dit « Ah non ». « Ah non, je veux pas que ça arrive ». Il y a des « Ah non » qui sont moins graves, mais qui, dans le quotidien, là, « Ah non ». Comment est-ce que je vais survivre avec les enfants qui vont plus à l'école? Ah non! Mon mari et moi, 24 heures par jour, ma femme et moi, essayant de travailler ensemble, en télétravail, ensemble. Ah non! Ah non! Il n'y a plus de coiffeuse, il n'y a plus de salon de coiffure. Il y a un rigolo qui a dit que d'ici quelques mois, 90% des blondes vont disparaître de la planète. Vous y penserez. Ah non, il n'y a plus de gym, il n'y a plus d'endroit pour s'entraîner. Alors, on ne sait pas si on va sortir de cette crise agrandie ou si on va sortir de cette crise ayant grandi ou ayant grossi. Il y a des ah non de toutes les sortes. Puis il y a des ah non qui sont bien plus graves. Ah non, non, un déni. Ah non, la maladie qui frappe. Ah non, le deuil. Ah non, mes études. Ah non, je ne suis pas capable de voir mon père, ma mère qui sont dans un centre. Je ne suis même pas capable d'être avec eux. Ah non, on ne peut pas aller auprès de nos bien-aimés. Ah non, qu'est-ce qui va se passer avec mon entreprise? Et les ah non ont plusieurs dérivés. Et la foi qui fait face au COVID-19 doit transcender les ah non et tous ses dérivés. Plusieurs dérivés des ah non. La diminution. OK, au début, c'est non, ça n'existera pas. Et on a vu beaucoup de politiciens y aller en diminution. Encore une fois, sans les nommer, c'est assez célèbre. Lorsqu'il y a à peine quelques semaines, un chef de pays a dit, non, on a seulement 15 cas et dans une semaine, il n'y en aura plus du tout. Et au jour où j'enregistre, il y a 712 000 cas dans son pays et 35 000 morts. Diminution, c'est de dérangement, le dérivé du déni. On est tous dérangés. La dissimulation. Les pays dissimulent, des gouvernements dissimulent, les CHSLD dissimulent, des gens dissimulent. La défiance, moi je vais faire ce que je veux, il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Laissez-moi dire un mot ici. La défiance des face aux lois, en ce moment, il y en a qui le voient comme une espèce de courage, une espèce, moi j'ai pas peur. Non, non. La défiance en fait n'est pas un courage, c'est même une certaine lâcheté, parce que tu mets d'autres qui sont plus vulnérables en péril, des plus faibles. La défiance sur les règles de confinement et de distanciation est non seulement insensée pour toi, mais elle est dangereuse pour d'autres et peut devenir même mortelle. J'ai un mot pour tous les chrétiens et non-chrétiens, tout le monde qui m'écoute, respecte les lois et rapproche-toi de la lumière. Rapproche-toi de la lumière que le Seigneur a, mais respecte les lois dérivées du déni, un certain détachement. Il y a une différence. On doit être en distanciation sociale, mais ça ne veut pas dire que c'est un détachement spirituel. Alors, c'est une question que le Seigneur pose à ton cœur. Est-ce que tu as, pendant cette période, est-ce que tu as laissé tout ce qui prend place t'éloigner de Dieu, t'éloigner de sa parole, de sa présence, de tes engagements envers lui, de tes vœux envers lui? Es-tu dans une période dangereuse où la pandémie, tu l'as laissé, devenu l'excuse pour ton détachement, ta dérive, un des dérivés? Du déni actuellement, c'est une dérive morale, une dérive spirituelle. Il y a de plus en plus de stats, de statistiques de gens qui boivent plus d'alcool, consomment plus de cannabis, consomment des médicaments. J'ai lu un article il y a quelques jours que les sites pornographiques ont une explosion de visites comme jamais, sont visités comme jamais. Est-ce que tu as laissé cette pandémie te faire... Est-ce que tu dérives en ce moment? Est-ce que tu dérives, détachement, dérive, une certaine dureté? Il y a des choses qui s'écrivent en ce moment sur les médias sociaux à propos des personnes du bel âge, à propos de... Non, on va revenir comme avant, puis nous autres, on est jeunes, de toute façon, on va être en forme. Il arrivera ce qui arrivera, dureté implacable, un désespoir, pensée, idéation suicidaire. Au milieu de toute cette dérive, de ce déni de toutes ces formes, Dieu nous appelle à une foi avec une décision, une détermination, une foi qui dit, Seigneur, je ne contrôle pas toute chose, mais ma confiance est en toi, mes yeux sont sur toi, mon cœur est sur toi, je vais rester attaché à toi. Lorsque je suis sous attaque, lorsque le COVID m'environne, je suis couvert par toi. Il y a plusieurs années, j'ai eu le privilège de rencontrer le pasteur Rick Warren. C'était un grand un moment merveilleux dans mon ministère. On était quelques pasteurs assis à une table avec lui, à son église, en Californie. On avait le droit de lui poser quelques questions. On a parlé de différentes choses. Puis comme ça, j'ai raconté cette anecdote que je n'ai jamais oubliée. J'avais pris toutes les notes pour avoir les détails. Il nous parlait à quel point, lorsqu'on on le voit, on l'imagine pas, la proximité de Dieu qui nous entoure. En d'autres mots, lorsque tu es environné, Dieu t'entoure, Dieu te couvre. Puis il nous racontait que son frère, le frère de Rick Warren, nous racontait que son frère était le 16 août 1987. Il était dans un avion dans la ville de Détroit, se préparait à partir. Il y avait plusieurs avions devant lui. Et juste devant eux, on était une trentaine de minutes d'attente sur le tarmac. Et finalement, l'avion se met en position et le pilote leur dit, il y a juste un avion qui décolle avant nous, puis dans 10 minutes, on sort. Et l'avion qui était devant lui, c'était le vol 255 de la Northwest Airlines, qui partait de Détroit. Vous pourrez vérifier tous les faits. Le frère de Rick Warren était assis dans l'avion juste derrière lorsque le vol 255 de la Northwest Airlines, le 16 août 87, a monté et s'est écrasé. 155 personnes ont péri. Il y a une seule enfant, il y a une seule personne qui a survécu. Les experts, on ne peut pas imaginer comment. La petite Cecilia, 4 ans. Et lorsqu'ils ont tout reconstruit la scène, sa maman, voyant l'avion qui était en train de s'écraser, sa maman s'était littéralement placée d'une position où elle l'entourait, elle la couvrait. Et sa maman a donné sa vie et l'enfant a survécu. J'aimerais vous dire que la semaine après Pâques, vous avez besoin de faire attention de ne pas oublier. Le message de la croix, c'est qu'à la croix, Jésus a donné sa vie pour nous couvrir de son amour, de sa paix à travers cette pandémie, à travers tout ce que nous traversons, sa fidélité, ses plans, son espoir, les forces qu'il nous donne, la foi dont nous avons besoin est une foi qui doit transcender le déni et tous ses dérivés, et c'est une foi avec une décision qui nous fait découvrir. La foi est une assurance. Une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Là où il n'y a pas de vision spirituellement, le peuple périt. Ce que je vais voir spirituellement, ce que Dieu va me permettre de voir, où mes yeux vont être placés, ce que je vais voir spirituellement pendant cette pandémie va déterminer comment je vais vivre cette pandémie. C'est un moment terrifiant dans 2 Roi, chapitre 6. La ville est enveloppée. Pendant la nuit, du jour au lendemain, tout a changé. Mais il y a une foi que nous allons voir, la foi qui, avec une décision qui va permettre une découverte spirituelle. 2 Roi 6, 16 et 17. Il répondit, ne crains point. Juste avant, c'est le serviteur qui dit, ah non, qu'allons-nous faire? On va périr. Mais l'homme de Dieu répondit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il y a des multitudes d'ennemis. T'entends le ululement, le cri de guerre, les milliers d'épées qui brillent, le soleil qui frappe les épées, la poussière qui monte, l'ennemi est en train de se fondre sur eux. Et Élisée, le père spirituel, dit au jeune homme, alors qu'ils sont seulement les deux, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit alors la montagne de chevaux et de chars et de feu autour d'Élisée. Il y a une prière qui a pris place. Ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et c'est certain que le jeune serviteur de Dieu dit, « Say what? Quoi? Répète ça, voir. Comment peux-tu dire que? » Il y a nous deux, la foi ne nie pas la réalité de l'attaque. Élisée ne niait pas la réalité de la pandémie, la réalité de l'attaque. Mais il avait une vision d'une réalité, d'une autre réalité qui était tout aussi là. Et Dieu t'entoure quand tu te sens entouré. Quand tu te sens entouré, Dieu t'entoure. La foi ne nie pas la réalité de l'attaque. La foi n'est pas un levier pour faire disparaître instantanément. Alors, on a le sujet de la foi, il n'y en a pas de pandémie, il n'y en a pas de COVID, il n'y en a pas de coronavirus. La foi n'est pas un levier pour faire disparaître instantanément. La foi, c'est une lentille pour nous faire découvrir ce qui est là, que tu ne vois pas avec l'œil humain. Le 29 juin 1962, à l'hôpital Saint-Michel, dans un quartier populeux de Montréal, ma mère me donnait naissance. Et il n'y a personne dans la famille qui a des problèmes avec les yeux que moi j'ai. C'est une erreur médicale alors que c'était un accouchement difficile avec les moyens de l'époque. Mais avec les forceps, les forceps ont glissé et ont déchiré sur mes yeux. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu de multiples opérations aux yeux. Il reste un peu de strabisme, surtout je suis fatigué. Et ce qui est un événement a pris place qui m'a donné une difficulté de focaliser. Difficulté de focaliser humainement, visuellement, au niveau humain. Mais Dieu, lui, m'a guéri. J'ai continuellement besoin de prier, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse avoir un focus, une focalisation qui est spirituelle. » Dans ta vie, dans votre vie, et dans tout ce que nous vivons actuellement, il y a des événements qui frappent, qui peuvent te faire perdre ton focus spirituel. La foi remplace la frayeur lorsque nous élevons notre focus. Élisée a prié, « Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir. » La foi peut ressentir la peur, mais elle doit refuser de rester dans la peur. Il y a une différence entre l'invisible et l'imaginaire. Notre ennemi, l'ennemi est invisible, il est réel. Mais l'imaginaire peut nous amener dans des endroits de terreur, dans des endroits de découragement, dans des endroits de désespoir. Élisée a prié. Éternel, ouvre ses yeux. Il y a des choses que je ne peux pas décider. Je ne peux pas décider quand les choses vont arrêter, quand les choses vont se réouvrir, comment les nations vont agir, comment mon voisin va agir. J'ai plein de choses que je ne peux pas décider, mais je peux décider de prier à chaque jour. C'est mon invitation, c'est mon appel pour toi. À chaque jour de prier, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur, à ton appel, à ton apaisement. Ouvre mes yeux à toute ton aide, à tous tes plans qui sont déjà là. Parce que comprenez bien, l'aide de Dieu n'est pas arrivée parce qu'Élisée avait prié. L'aide de Dieu était déjà là. Lorsqu'il a prié, c'est qu'il a vu ce qui était déjà là. Je veux que tu saches que l'aide de Dieu est déjà là. Sa présence, ses plans, elle est déjà là. Élisée a prié, Seigneur, ouvre les yeux afin qu'il voie. Je vais essayer de vous l'expliquer de cette façon. La foi, c'est plus que de prier, Seigneur, élimine. Élimine la pandémie. Non, la foi, c'est beaucoup plus de prier, Seigneur, illumine. Illumine, Seigneur. Laisse-moi voir ce qui est déjà, ce qui est là, ce qui est réel. Il y a 7 mots qui changent tout, pour un croyant, quelle que soit la pandémie. Les psaumes sont remplis de moments où ils traversaient des menaces et des pandémies et des peurs et tout était secoué. Le psaume 109, verset 1 à 4. Si vous lisez les 4 premiers versets, le silence, c'est un moment de silence du ciel. David dit, il y a un silence du ciel, je ne sais pas ce qui se passe. Il est sous une attaque, il est sous une menace, injustice, une guerre. Il dit littéralement, il y a une guerre contre moi que je n'ai rien fait pour mériter. On n'a rien fait pour que ceci nous arrive, mais voici les 7 mots qui changent tout. La foi, avec une décision qui nous fait découvrir, David a dit, « Mais moi, je recours à la prière. » 7 mots qui changent tout. « Mais moi, je recours à la prière. » Depuis le début la pandémie, nos gouvernements ont mis en place toutes sortes de programmes et nous-mêmes, avec tous les personnes qui travaillent à Nouvelle Vie, le Stade Nouvelle Vie, on essaie de bénéficier de tous les programmes, s'occuper de tout le monde bien. Mais j'étais halluciné à tous les jours, il y a toutes sortes de programmes à lesquels nous pouvons avoir recours. David a dit, mais moi, j'ai recours. Et c'est bien, ayez recours à tout ce que la loi vous offre et on va vous donner recours à tout ce qui est possible. Mais je regardais juste quelques, je demandais à notre département des ressources humaines et les programmes, le AE, l'assurance-emploi, le PCU, la prestation canadienne d'urgence, la TPS qu'on connaît bien, l'ACA, l'allocation canadienne pour enfants, le, Le DSDI, le délai supplémentaire déclaration d'impôt, le RPH, le report des paiements hypothécaires pour les grandes entreprises, la SUE, la SLE, le PCE, le PACTE, le PACME, plein d'acrostiches, plein d'acronymes. À quoi allez-vous avoir recours et aller chercher tout ce que vous avez recours? Mais j'aimerais vous proposer que vous avez absolument besoin d'aller au PPPPPPP. Vous avez besoin, vous et moi, de dire, et pour moi, je vais avoir recours aux promesses de paix, de provision et de puissance de mon Père disponibles à travers les pires pandémies qui me sont accordées par la prière. Vous avez besoin d'avoir, vous ne pouvez pas traverser sans chaque jour aller vers celui qui dit, Seigneur, ouvre mes yeux maintenant. Ouvre mes yeux, ouvre mon cœur. Je suis tellement béni de voir pendant cette période de pandémie, dans la simplicité des gens qui vivent des choses graves et qui prient. Et que Dieu, d'une manière, de toutes sortes de manières, je pense à cette dame qui était hospitalisée, elle était dans la petite salle stérilisée juste avant d'aller faire son intervention chirurgicale. Et elle ne vient pas à l'église Nouvelle Vie, mais elle a entendu parler de Nouvelle Vie. Elle était croyante dans son pays, elle est immigrante, elle était là dans la salle terrorisée. Et un de nos pasteurs, qui lui aussi se préparait à aller en chirurgie pendant la pandémie, il la met dans la petite salle et il est avec cette dame-là. Il la salue et puis elle est hispanophone et il lui dit, est-ce que vous connaissez Nueva Vida? Et elle dit non, mais elle lui dit, est-ce que c'est Nouvelle Vie? Il dit, oui, Nouvelle Vie. Elle lui dit, à lui, est-ce que vous connaissez Nouvelle Vie? Il dit, je suis pasteur à Nouvelle Vie. La dame se met à pleurer. Elle dit, ça fait des jours que je demande au Seigneur, envoie-moi quelqu'un pour me rassurer. Puis il m'envoie un pasteur de Nouvelle Vie. Elle a recours à la prière. Il a prié avec elle. Et le pasteur dit qu'alors qu'ils l'ont amené pour aller vers la salle d'opération, elle avait la tête tournée. Puis elle disait, merci, merci, merci. Je pense à cette autre dame qui, elle, était chez elle. Elle ne vient pas à Nouvelle Vie, mais suit les messages et tout ça. Et puis, elle n'a jamais eu besoin d'un panier de nourriture auparavant. Et alors qu'elle était chez elle, elle arrivait à des moments où est-ce qu'il n'y a pas de nourriture. Elle appelle à différentes places. Il n'y a personne, madame seule. Il n'y a personne qui... toutes les listes d'attente étaient pleines. Et dans son appartement, elle a prié. Elle a eu recours à l'Éternel. Et elle a prié, elle a dit, Seigneur, ouvre une porte pour moi, fais quelque chose pour moi. Et si vous avez des doutes, moi, nous, on a exactement c'est qui, cette dame-là. Mais cette dame-là, je ne sais pas si c'est dans les heures ou la journée qui a suivi, on a cogné à sa porte. Et c'était quelqu'un de l'organisme Action Nouvelle Vie qui arrivait avec un immense panier de nourriture. Elle était complètement sous le choc. Elle a signé, elle a dit merci. Ça n'a pas été placé. Elle s'est mise, elle a dit merci, merci Seigneur. Et lorsqu'elle a regardé dans le panier, elle a vu une adresse sur le panier et c'était la mauvaise adresse. Elle n'avait jamais commandé, elle n'avait jamais fait d'inscription, elle n'avait jamais rien, mais ce panier-là était destiné à quelqu'un d'autre. Et dans son honnêteté, cette dame a appelé, elle a dit au préposé, « Vous m'avez amené un panier, mais il n'est pas pour moi, je ne l'ai pas commandé. » La préposée a dit, « Mais à partir de maintenant, madame, il est pour vous, lorsqu'elle a su sa condition. Je crois de tout mon cœur que là où tu es, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, que Dieu est en sa main et veut avoir, alors que tu vas avoir recours à la prière, il veut t'ouvrir les yeux à tout ce qu'il est pour toi, tout ce qu'il peut être pour toi, tout ce qu'il peut devenir pour toi. Ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir l'ennemi est réel, mais les chariots de feu qui représentent la provision de Dieu, la souveraineté de Dieu, le Dieu en contrôle de toutes choses, qui est au-dessus, qui entoure ceux qui tantôt est là pour toi aussi. Dans les pires pandémies à travers le monde, nous sommes, en tant que Nord-Américains, très souvent, comme chrétiens nord-américains, si ça ne nous touche pas nous, c'est moins grave. En ce moment, il y a 140, 150, 160 000 personnes qui ont perdu la vie à travers le monde. C'est une pandémie mondiale, il n'y a aucun doute. Mais lorsqu'il y a 500 000 personnes qui meurent dans un tremblement de terre en Haïti, il n'y a personne qui disait « c'est le retour de Jésus ». Ah, c'est en Haïti. Les chrétiens, les prophètes ne s'agitaient pas lorsque 800 000 morts au Rwanda et au Burundi dans un génocide parce que ça ne change rien chez nous. Maintenant que ça touche les Nord-Américains, les Européens, là, c'est grave. Laissez-moi vous dire que moi, j'ai voyagé le monde entier, j'ai vu des chrétiens se tenir et avoir recours à Dieu. C'est cette décision qui nous fait découvrir ce que Dieu est là. Il y a quelques mois, j'ai reçu un message texte de mon ami, le pasteur Dan Lutten, est avec Alice, un groupe de personnes de leur église, dans une grande conférence aux États-Unis, à l'église Gateway. Puis il m'écrit, « Salut, pasteur Claude, on vient de faire connaissance à la conférence de Gateway avec Dieudonné qui vous a traduit lorsque vous étiez au Burundi. » Moi, je reçois ce courriel-là et tout de suite, je traverse le temps. Je suis lancé dans le temps à cette saison où j'étais au Rwanda et au Burundi dans l'après-génocide, où j'étais sur le bord de la route et il y avait partout à travers la nation, si on regarde la prochaine photo, partout à travers la nation, des monuments comme celui-ci. Plus jamais ça. Celui-ci en particulier est un monument où, lorsque le génocide a commencé, une enseignante du primaire a demandé à des enfants innocents, combien ici êtes Tutsis? Ils ont levé la main, ils les ont pris, ils les ont mis, les enfants ne savaient pas pourquoi, dans un autobus, dans un car, ils les ont amenés à une station d'essence qui était là et elle les a couverts d'essence et les a mis en feu. Les enfants sont là, prochaine photo, les enfants sont là sous nos pieds et enfants victimes du génocide. Et je suis là avec Dieudonné, qui était mon traducteur, qui m'a raconté son témoignage. Lui a vu tellement de gens autour de lui périr pendant le génocide, un jeune chrétien engagé dans son église. Il a été amené dans un camp de réfugiés. Sa professeure à lui lui a sauvé la vie, l'a couvert. Il l'a envoyé et il est allé dans un camp de réfugiés. Un camp de réfugiés où il y avait tellement peu à manger, un camp de réfugiés où il y avait des viols, où il y avait de la violence, où les humains se comportaient comme des loups, comme des animaux. Et lui est un jeune chrétien, il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'Internet comme nous, il n'y a rien de tout ça. Il se retrouve déconnecté de tout. Et il dit qu'à chaque jour, le seul endroit qu'il pouvait trouver une petite quiétude, c'était derrière une montagne, derrière une montagne de détritus, une montagne de déchets. Et devant la montagne, derrière la montagne de déchets, au milieu d'un camp de réfugiés, le jeune Dieudonné, dans la 17, 18, 19, 20 ans, pendant qu'il était là, levait ses mains vers Dieu, avait recours à l'Éternel. Seigneur, je prie à toi, Seigneur, tu me vois ici, Seigneur. Je vous parle d'une foi qui transcende le déni, qui transcende le désespoir, le doute. Je vous parle d'une foi qui comprend qu'il y a une décision. Et moi, j'aurai recours à l'Éternel, une foi qui va nous faire découvrir. Et alors qu'il était là derrière sa montagne, alors qu'il est en train de louer, il disait qu'il chantait, il louait, il priait, il est arrivé une organisation chrétienne internationale qui a commencé, et lui s'est mis tout de suite bénévole pendant des jours, des semaines, et travaillait. Et un des leaders de l'organisation qui l'a remarqué, son don de lui-même, sa patience, son service, et a commencé à entretenir un lien avec lui. Et lorsque toute la période génocidaire a commencé à se calmer, il a reçu une bourse d'études, est allé faire son baccalauréat, est allé faire une maîtrise en traduction. Il est maintenant, et à l'époque, on était ensemble, et il était avec sa fiancée, la photo qu'on a vue, il était maintenant marié, il est pasteur, il sert le Seigneur. J'aimerais te dire, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons, Dieu dit, il y a une foi avec laquelle je vais vous équiper. Une foi qui transcende le déni et tous ses dérivés. Une foi avec une décision qui nous fait découvrir. Mais moi, je vais avoir recours à la prière. Ouvre mes yeux pour voir ce qui est là. La dernière pensée, la foi dont nous avons besoin pour faire face à la pandémie, c'est une foi où nous devenons un peuple pour Dieu qui va faire la différence. Nous devenons un peuple pour Dieu qui va faire la différence. Vous lirez le texte de 2 Roi 6, c'est fascinant. Le nom de Élisée veut dire « Dieu sauve ». Pas « Dieu se sauve », « Dieu sauve ». Le peuple de Dieu, dans les temps de pandémie, on n'est pas appelé à se sauver, à se cacher avec un doigt accusateur, le jugement de Dieu sur vous, tous les méchants, toutes les nations. Non, nous sommes appelés à être le Dieu qui sauve à travers nous. Après que Dieu eut ouvert les yeux de son serviteur, vous lirez le texte, c'est fascinant. Il rend ceux qui croyaient que le représentant de Dieu était leur ennemi, il les rend plus vulnérables. Ils avaient été méprisants, ils avaient été à l'attaque, ils étaient à la poursuite pour anéantir le serviteur de Dieu. Et ils continuent à marcher. Le texte nous dit qu'ils marchèrent et continuèrent leur chemin. On sait que c'est un 20 km entre Dothan et Samarie. Ils marchent, ils continuent comme des multitudes qui marchent à travers cette pandémie, mais ils ont perdu tous leurs repères. Ils ne savent plus où ils en sont. On avait mis notre confiance dans ça et ça s'effondre. On avait mis notre confiance là-dedans. Voici les plans que j'avais faits. Et il y a plein de gens en ce moment. Écoutez-moi, il y a une raison pour laquelle il y a des dizaines de milliers de personnes qui ne fréquentaient pas l'Église Nouvelle Vie, qui en ce moment suivent les podcasts, sont là, suivent les courriels après courriels, des gens partout. Je rencontre des gens partout. Je reçois des courriels de gens de partout qui disent que leur cœur s'ouvre en ce moment. Ils sont comme ces hommes sur le chemin entre Dothan et Samarie qui marchent et je ne sais plus où est-ce que j'en suis rendu. Et regardez bien quel est notre rôle. 2 Roi, chapitre 6, versets 19 et 20. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. le chemin du matérialisme seulement, le chemin du capitalisme sauvage qui nous entoure, le chemin de l'hédonisme, juste mon plaisir, juste le moi, le chemin du nihilisme, il n'y a rien qui compte, il n'y a aucun espoir à nulle part, le chemin du panthéisme, même si tu ne sais même pas c'est quoi le mot, que tout le monde est Dieu puis moi je suis Dieu, ce n'est pas ça le chemin. Tu t'en rends compte en ce moment. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduit à Samarie, et lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre leurs yeux. Ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent. C'est notre rôle. C'est, en tant qu'Église, ce que nous sommes appelés aujourd'hui à faire. Être actif avec cette foi où nous devenons un peuple pour Dieu qui fait une différence et qui dit à tous ceux qui nous regardent en ce moment, qui vivent cette pandémie avec nous, « Suivez-moi, je veux te conduire vers celui que tu cherches. » Tu ne savais pas que tu le cherchais, il y a dans ton cœur un vide avec la forme de Dieu. Et Jésus est celui que tu cherches. Il est celui qui apaise, il est celui qui pardonne, il est celui qui guérit, il est celui qui donne un sens. Ouvre, je veux prier pour que Dieu ouvre tes yeux. Puis remarquez ceci à tous les chrétiens qui regardent ce message. Nous ne pouvons pas ouvrir les yeux de ceux qui ne le connaissent pas si nous sommes nous-mêmes les yeux fermés des chrétiens, apeurés, frustrés, enragés, qui pointent le doigt, qui appellent le jugement. Le croyant qui est l'Église et le prophète qui en ce moment appelle le jugement et condamne les nations ne fera pas de différence. Il n'ouvrira les yeux de personne. Je veux laisser le jugement des hommes et des nations à Dieu. Parce que c'est au-delà de mes connaissances et des tiennes, au-delà de mes compétences et des tiennes. La foi qui fait une différence n'est pas une foi qui frappe, c'est une foi qui vient pour présenter Jésus, une foi qui fortifie. Dernier verset, 2 Roi 6, la suite. Le roi d'Israël en les voyant dit à Élisée, « Frapperai-je? Est-ce que je vais frapper? » « Non, tu ne frapperas pas, répondit Élisée. Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et qu'ils boivent. » Et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Et le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent, ils burent, puis les renvoya et s'en allèrent vers leur maître. Et ces troupes des Syriens ne revinrent plus pour ravager le territoire. Il y a des choses qui ont changé. J'aimerais dire à chaque croyant qui m'écoute, nous ne sommes pas appelés à attaquer. Attaquerai-je? Est-ce que je vais attaquer? Est-ce que je vais frapper? Nous ne sommes pas appelés à frapper, à juger en ce moment. Nous ne sommes pas appelés à condamner en ce moment. Nous ne sommes pas appelés, surtout pas à condamner l'un l'autre. Quelle souffrance pour moi d'entendre à tous les jours de mes amis pasteurs qui vivent condamnation, vivent attaque parce que quelqu'un était malade dans leur église ou parce qu'il est arrivé. Il y a toutes sortes de folies qui prennent place dans le monde chrétien actuellement. La voix de Dieu, est-ce qu'on doit frapper? Frapperai-je? Non. Nous sommes ici non pas pour frapper, nous sommes ici pour faire briller le Fils. Nous sommes ici pour faire une différence dans la vie, pour fortifier leur vie. Donne-leur à manger, donne-leur à boire, donne-leur de la compassion. Nous sommes ici pour représenter non pas le Dieu de colère qui condamne, nous sommes ici pour représenter le Dieu en Jésus-Christ de compassion qui vient offrir son amour à chaque personne. Je vais terminer avec, on reçoit beaucoup de courriels. Et vous savez, nous faisons maintenant 3500, 4000 appels par semaine. On appelle des gens de Nouvelle Vie, on appelle des gens de notre église et des gens de notre église nous disent « Peux-tu appeler ma mère? Peux-tu appeler? » Parce que tout le monde qui est confiné en ce moment, on est à 150, à 200 appeleurs, les pasteurs, les dirigeants de groupes maison, toutes sortes de gens qui appellent. Et j'ai reçu un témoignage que j'ai répondu à ce que je peux, de dire votre témoignage, j'en ai mis votre nom. Il a dit « Pasteur Claude, dites mon histoire, je vis quelque chose de tellement extraordinaire. » Je n'aimerais pas son nom, mais un monsieur qui était éloigné de l'Église, il était ce que, ici au Québec, on a appelé les enfants de Duplessis. Il était dans son jeune âge, dans un pensionnat de la religion, un pensionnat catholique à l'époque, et il a participé en tant qu'adulte à un recours collectif parce que dans son pensionnat, il y a 111 garçons dont il faisait partie qui ont été violés et abusés sexuellement sur des années. Et lui, à partir de sa plus tendre enfance, pendant plus de 55 ans, jusqu'à tout récemment, était un ennemi de l'Église, de ce qu'il considérait comme la religion. Comme dans notre texte, c'est ceux qu'il croyait leur ennemi qui est venu à leur secours. Et cet homme était enragé, il avait une rage, il a passé toute sa vie adulte comme ça. Et il y a quelques années, il est maintenant dans la soixantaine, sa maman est dans, à plus de, je pense qu'elle a 84 ans. Sa maman, il y a 4 ou 5 ans, a commencé à venir à l'Église Nouvelle-Vie. Il a donné sa vie au Seigneur à travers un ministère de notre Église qui s'appelle l'Apogée, qui est un groupe de personnes du bel âge. Et elle est venue, invitée par une amie. Elle a été touchée, elle a donné sa vie au Seigneur et elle a même été baptisée, baptisée d'eau. Et lorsqu'elle a été baptisée en témoignage de sa foi, son fils était enragé, rageait contre elle. Et récemment, il m'a écrit pour me dire que, avec beaucoup d'humilité, il m'a dit les plusieurs semaines depuis le début de la pandémie, je n'avais même pas appelé ma mère. Je me suis dit, au moins je l'appelle. Et lorsque je l'ai appelé, comment ça va, maman? Et elle a dit, moi, ça va bien. Es-tu correct, maman? Elle a dit, oui, ça va bien. Il y a des gens qui m'appellent à chaque semaine, je parle avec eux. Et là, elle a commencé à expliquer les gens qui l'appelaient, qui parlaient avec elle, qui l'écoutaient. Puis ils m'ont donné le numéro et une adresse de l'organisme qui m'amène de la nourriture. Et elle lui dit, j'écoute mon pasteur à tous les matins. Il dit, maman, les églises sont fermées, là, ton pasteur n'a pas d'affaires. Mais non, je l'écoute et elle est branchée. Elle est en ligne, elle écoute les cafés. Et lui, elle dit, comment? Et il dit qu'alors qu'il entendait sa mère, il lui racontait ça, elle était saisie de conviction de dire, c'est ces mots. Puis j'ai demandé la permission de les dire. Ces gens-là s'occupent mieux de ma mère que moi. Puis ça fait des années que je passe devant, et là, je dis à ma mère, mais comment tu l'écoutes? Là? C'est où ça? Et bien sûr, lui, il est branché. Alors, plus qu'elle, sur tous les réseaux sociaux et tout ça, il me dit, Pasteur Claude, j'ai commencé il y a quelques semaines à vous écouter à chaque jour, commencé à regarder tout ce que vous, tout ce qui est mis en ligne. Puis j'ai commencé à, je suis touché, j'ai pleuré. Puis il dit récemment, il dit, j'ai prié avec vous, je réalise qu'il y a une différence, c'est ces mots. Je réalise que c'est une différence entre la religion et Christ et Jésus. Moi, je veux suivre Jésus avec vous. Frapperai-je? Non, ne frappe pas. Donne-leur à manger. Donne-leur à boire. Présente-leur celui qui ne connaissait pas, celui qui fait toute la différence et nous serons l'Église ensemble avec une foi où nous devenons un peuple pour Dieu qui fait une différence. Dans les derniers moments du message, dernière minute du message, je veux faire un appel à toi, à vous qui regardez ce message aujourd'hui. Si vous êtes ici, vous dites carrément, j'ai besoin de venir à Dieu. J'ai besoin de revenir au Seigneur. Je veux demander pardon pour mes fautes, demander pardon pour mes péchés. Le mot péché veut dire j'ai manqué la cible. Tous ont manqué la cible, séparés de Dieu. Jésus vient nous réconcilier avec lui. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Je veux revenir à lui. Je m'étais éloigné de l'Église chrétienne pour toutes sortes de raisons, mais je veux maintenant revenir. C'est mon moment. C'est ton moment à toi, maintenant, là où tu es. J'avais considéré l'Église ou même ceux qui sont de l'Église comme mes ennemis. Je m'étais considéré comme un ennemi d'eux. Mais aujourd'hui, je veux ouvrir ma vie. Je vais ouvrir mon cœur, je vais reconnaître mon besoin du Seigneur Jésus. Et si c'est votre cas là où vous êtes, je veux prier avec vous. Vous répétez cette prière avec moi. Ce n'est pas la répétition qui compte, mais votre cœur sincère alors qu'on l'a prie ensemble. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Viens dans ma vie. Viens me guérir, ouvre mes yeux et fais de moi un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Et je veux demander à tous les chrétiens, tous les croyants qui sont unis ensemble partout à travers la francophonie, à travers le Québec et la franco ensemble, est-ce qu'on peut prier ensemble cette semaine? Seigneur, je augmente ma foi, ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Fais-moi transcender le déni et le doute et le désespoir. Et Seigneur Dieu, je ouvre mes yeux. Je veux, cette semaine, je vais avoir recours à toi, recours à la prière. Je vais aller devant toi. Tu vas ouvrir mes yeux et sers-toi de moi pour faire une différence dans la vie de quelqu'un, afin que leurs yeux puissent être ouverts aussi à ton amour qui est extravagant, qui est sans limite. Alors que notre équipe d'adoration chante l'amour extravagant de Dieu, voulez-vous le chanter, oui, mais voulez-vous le prier avec moi, Seigneur, Ouvre mes yeux pour que je puisse voir, afin que je puisse être ton instrument, afin que des gens autour de moi puissent avoir leurs yeux ouverts à qui tu es et à ton amour.